hier, je l'ai su par Saint-Jodard, par un coup de téléphone du père Marie-Jacques. Le père Vauter, c'est Vauter, hein, je crois, celui qui était tout près du père Finet pour ses retraites, vient de mourir d'un accident de voiture. Alors, je vous recommande, c'est de prier pour lui. C'était un ami. Parce que nous allons entrer dans l'avant. Peut-être qu'il est bon, puisque c'est le point de départ de l'année liturgique, de se dire qu'il y a un grand coup de fouet du Seigneur. On a toujours besoin, les vieux chevaux. La grâce est toujours jeune, et le vieil homme est toujours vieux. Et on est très vite vieux avec le vieil homme. Alors il faut profiter de toutes les occasions pour repartir avec un nouvel élan. Je crois que ça c'est très important. Repartir avec un nouvel élan, c'est-à-dire hein, demander au Seigneur de nous renouveler profondément dans le don total de tout nous-mêmes. La présentation était là pour nous le rappeler. Et de la présentation à l'avant, pour entrer très à fond dans ce temps. On a réfléchi avec le père prieur. Nous avons réfléchi avec le père prieur sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour à la fois alléger et intensifier. Ce qui n'est pas commode pour la vie commune. Alors, je vous soumets cela. Je demanderai tout simplement, frère, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir un chapitre. Et que j'aimerais quand même mieux savoir un peu vos sensibilités. Les sœurs verront ce qu'elles doivent faire hein, avec leurs autorités compétentes. Mais ici, je parle pour les frères. Peut-être de faire que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, ça fait 5 jours de la semaine, le soir, le repas soit self-service. Ça peut alléger. Ça peut aider. Alors j'aimerais savoir que ceux qui aiment cela, parmi les frères, qui le désirent, voyez, toujours dans le même sens, puisque presque tous disent la vie commune est un peu lourde à cause des charges du reste. C'est sûr, si vous aviez 30 esclaves à votre service, ça irait mieux. Mais quand on doit tout faire soi-même, c'est plus rude. Alors, ça peut aider. On en a discuté à Saint-Jodard. Et à Saint-Jodard, j'ai tâté le pouls. Chapitre des prophètes, pas des novices, parce que les novices n'ont pas d'opinion. Mais des prophètes qui commencent à avoir des petits bourgeons qui poussent. Et ils étaient tous d'accord. Alors je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord. Il faut loyalement là-dessus. Alors on peut lever la main pour ceux qui pensent que c'est bien que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant le temps de l'avant. Et c'est le service.
Il y a adoration pendant ce temps-là ou pas ?
Ah ! Très bien, eh bien, l'adoration... l'adoration resterait de 18h30 à 19h30 et le self-service commencerait... Non, le self-service, oui. L'adoration, 18h30, 19h30, et le self-service serait de 19h, de 19, commencerait.
On garderait l'adoration de 18h à 19h.
Oui.
Il faudrait le repas en self de 18h30 à 19h30.
Voilà. Vous avez un petit quart d'heure de plus.
Non,
ça ferait la même chose. On garderait le même temps d'adoration. Mais le self-service pourrait commencer un quart d'heure avant, pour qu'il y ait trois quarts d'heure. Où ça s'espace. Vous voyez? Je crois que c'est mieux, parce que c'est difficile de faire que l'adoration dure tout le temps. Il risque qu'il y ait peu de temps pour ce point. Ça ferait des allées-venues un peu supplémentaires. C'est plutôt pour que vous ayez un tout petit peu plus de temps pour la Lectio Divina. Le temps de l'Avent est un temps de Lectio Divina. Et ceci, je crois que c'est bon. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord? Majorité. Ceux qui sont contre. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 contre. Et les autres pour. Donc, neutre personne. Non, parce qu'il y en a qui peuvent dire que ce n'est pas d'important. C'est égal. Ça m'est tout à fait indifférent que ce soit comme ça ou autrement. Mais, donc, on fera ça. Je crois que ça peut aider à assouplir un peu et mettre un petit peu plus de temps de Lectio Divina. Je sais très bien que la lecture du soir peut être une Lectio Divina, mais un peu lourde à cause des macaronis. C'est un peu lourd. Tandis que quand il n'y a rien à manger et qu'on est en face du Seigneur, c'est plus facile de faire la Lectio Divina. Et je crois que pendant le temps de l'Avent, alors les sœurs feront ce qu'elles désirent, hein, ça, parce que c'est pas nécessairement que ce soit rythmé de la même façon. Il peut y avoir du pour et du contre, je sais très bien, comme toutes ces choses-là. Hein, tout règlement a du pour et du contre. Mais je crois que c'est peut-être pas mauvais, pendant le temps de l'Avent, de mettre un temps de joie en mettant plus de Lectio Divina. Parce que souvent, on n'est pas assez joyeux. Parce qu'on ne se nourrit pas assez divinement. Alors il faut trouver le moyen de maintenir une très grande joie. Marie était très joyeuse pendant le temps d'avant. Ça, je crois que c'est un temps de joie, l'avant. C'est un temps d'une pénitence joyeuse. Parce que la pénitence soit allégée, étant donné que ça fait qu'on pèse un peu moins lourd. Et donc ça nous allège. Mais quand je dis on pèse un peu moins lourd, comprenez bien ceux qui sont poids-plumes, qui ne s'allègent pas trop. N'est-ce pas? Ceux qui peuvent, parce que le poids est là, qui peuvent le faire très bien, qui s'allègent un peu pendant le temps de la mort. Pas trop, hein, parce que quand même un tout petit peu, c'est possible. Alors, quelques mots sur le temps de l'Avent, parce que je crois que c'est quand même très important. C'est un temps liturgique merveilleux. Et ça doit être un temps liturgique merveilleux pour nous. Nous aurons le pèlerinage à Lourdes. Puisque je reviendrai vendredi pour partir avec vous. Et rejoindre les autres à Lyon, je présume. C'est comme ça que ça se fait, je sais pas.
Oui,
c'est ça. Et ça fera que pendant ce temps de l'Avent, il y aura la place de Marie dans son mystère de l'Immaculée. Comprenez bien que Lourdes, c'est un pèlerinage, c'est pas une détente. C'est un pèlerinage. C'est un temps fort de prière. Et il faut le faire comme un temps fort de prière. On va pas à Lourdes pour s'amuser. On va à Lourdes pour prier. Et pour prier pour la France. Elle en a bien besoin. Pour toute l'Église. Pour toute l'humanité. C'est quand même très important. Parce que le temps de l'Avent, c'est l'alliance de Dieu avec les hommes. Et une alliance merveilleuse. Puisque c'est Dieu qui assume l'humanité dans dans ce cas-là, de plus fragile. C'est un temps où l'on doit particulièrement être attentif à tous ces cris d'avortement. Et on doit prier pour ça. Et si on va à Lourdes, c'est un peu pour ça aussi. Parce que l'humanité a lourd à porter. C'est une humanité de criminels. Et puis c'est une humanité de terroristes. On doit aimer, je crois, de faire ces pèlerinages pour la Vierge Marie. Même si ça nous coûte un peu, au point de vue travail individuel, c'est quand même un don qu'on fait à Dieu. On donne à Dieu ce temps. Et on doit le faire comme ça. On doit donner à Dieu ce temps et à la Vierge Marie. De sorte que ceux qui n'y vont pas pour des raisons apostoliques, parce qu'il y a toujours des raisons apostoliques, c'est très bien, on sera de cœur avec eux, on les portera. Mais j'espère qu'il n'y a pas d'autre raison que des raisons apostoliques. Parce que c'est des raisons individuelles, parce qu'on n'aime pas se déranger, c'est des vieux garçons, c'est pas autre chose que ça. Et la Sainte Vierge n'aime pas les vieux garçons. Elle aime des jeunes qui se donnent totalement et jusqu'au bout. Je crois qu'il faut faire attention, on vient très vite avec des vieux, des mœurs de vieux garçons. Alors quand vous aurez 50 ans, toute la communauté porte les conséquences des vieux garçons. Je crois que c'est important, vous voyez, c'est un temps de jeunesse, l'avant. On se rajeunit, et il faut savoir comment on se rajeunit. On se rajeunit en s'approchant de celui qui est la source de toute jeunesse. On est vieux garçon et vieille fille, hein, ça existe aussi, ça c'est évident. Parce qu'il ne faut pas oublier, les vieilles filles voient très vite les vieux garçons, et les vieux garçons voient très vite les vieilles filles, ça se voit tout de suite. Alors il faut faire un petit peu attention de ne pas tomber dans ces ornières. Il faut essayer de se rajeunir tout le temps, chaque fois qu'on a l'occasion. Et c'est sûr que le temps de l'Avent, c'est un temps merveilleux pour cela. Un temps qu'on doit aimer, de rester dans cette joie du cœur de Marie, dans cette joie du cœur du tout petit enfant Jésus. Il est conscient en Marie de sa petitesse et de sa fragilité. Et il a vécu cette dépendance à l'égard de Marie, par amour pour nous, par amour pour tous les hommes. Le temps de l'Avent doit être donc ce temps de joie, de rajeunissement divin, de don total et de dépendance à l'égard de Marie. De grande dépendance à l'égard de Marie, et d'une très grande dépendance, d'un don très absolu à l'égard de Marie. On doit l'aimer, et l'aimer pour que elle nous prenne de plus en plus, qu'elle nous cache de plus en plus, puisque elle porte le petit enfant Jésus, elle le cache. On doit y avoir en nous cette soif. Alors rappelons-nous ce que Saint Luc nous dit sur ce temps de l'Avent, de l'Annonciation à Noël. C'est le mystère de l'Annonciation qu'on vit. Donc, cette soif de contemplation, de présence de Jésus, il est présent en nous dans la foi. Ce mystère de la visitation, c'est-à-dire la charité fraternelle, les initiatives dans la charité fraternelle. On doit s'aider mutuellement. Et l'Annonciation, c'est cette grande initiative de Marie qui va au service d'Élisabeth. C'est bon de se demander de temps en temps si, au point de vue de la charité fraternelle, on a des initiatives suffisantes d'aider ceux qui ont plus de peine. C'est plus difficile. On sent bien. Il y en a qui ont beaucoup plus de facilité. Et puis il y en a qui ont des difficultés. Ça c'est sûr. Et ça se voit vite, ça. Pédale pas tous du même pas. Alors il faut qu'on puisse s'aider, s'entraider. Et ça c'est important, vous voyez, pour maintenir la joie, de s'entraider. On voit un frère qui a un petit peu plus de peine. posé d'une façon maladroite et pesante. Mais en demandant au Saint-Esprit comment on peut faire, et le mystère du Magnificat, hein, c'est le temps de l'Avent. Et le Magnificat, c'est dans le cœur de Marie, la manière dont Marie voit l'économie divine. C'est si grand, Magnificat. C'est Marie qui, comme mère, voit comment tout est conduit par l'Esprit Saint. Et tout est sous la conduite de l'Esprit Saint. Elle laisse de plus en plus son cœur être entièrement sous la mouvance de l'Esprit Saint. Pour glorifier le Père, pour exalter dans son âme et son esprit. C'est du reste très beau de voir ça, le début du Magnificat. L'âme et l'esprit, psyché, pneuma, les deux sont unis. Et les deux remontent vers Dieu. Et on doit toujours avoir le souci des deux. Pneuma, on sait bien ce que ça veut dire. La fine pointe de l'esprit et psyché, tout ce qui est en nous est vivant. Il doit proclamer, exulter de joie. Et puis, durant l'Avent, on doit vivre aussi ce que représente l'édit de César, ce mystérieux édit de César qui oblige Marie et Joseph de quitter Nazareth. Et d'aller à Bethléem. Tout ça doit être vécu. Vous voyez, au fond, c'est toute notre vie chrétienne, vue sous un aspect particulier, la contemplation, l'exigence de la charité fraternelle, la liturgie. Il faut avoir une liturgie aérienne pendant l'Avent. C'est vrai, d'avoir comme un grand élan et un grand désir. Marie soit là, elle est toujours invitée. Et alors, essayez, parce que je crois que c'est important, de faire que notre liturgie soit toujours plus joyeuse, plus intérieure, plus brillante. Plus elle est brillante, plus elle sera joyeuse, et plus elle aura quelque chose de plus divin. Le Magnificat nous donne la note de notre liturgie chrétienne. Il faut comprendre que durant ce temps de l'Avent, on doit, avec Joseph et Marie, accepter cet édit de César. Quand nos supérieurs nous donnent des ordres, c'est pas l'édit de César. Joseph et Marie ont accepté l'édit de César. Ça va bien plus loin. C'est beaucoup plus crucifiant. Ils ont accepté d'être délogés et de partir vers une terre qui n'était pas nécessairement la plus accueillante. Ancêtres, c'est merveilleux. On voit très bien que les descendants de David n'ont pas la même générosité que David, ni la même noblesse. S'ils avaient eu la générosité, la noblesse de David, ils auraient reçu Marie, ils auraient reçu Joseph. C'est le niveau, parce que descendre de David, c'est quand même ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus grand. En Israël, et si Israël représente le premier-né, voyez ce que ça représente, et de voir cette baisse incapable de recevoir Marie. Pour Saint-Joseph, c'est un Dieu terrible, incapable. Ça montre ce que ça représente, et c'est ça l'humanité. que l'humanité d'aujourd'hui, incapable de recevoir Marie qui attend son enfant, incapable de recevoir le roi de l'univers. Mais ça, c'est des vieux garçons. Ça, c'est le modèle. On est enfermé dans ces petits problèmes et puis on est incapable de voir plus loin, de voir quelque chose de grand, quelque chose qui... Il faut beaucoup y penser à ça, dans le temps de l'Avent. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et le temps de l'Avent, vous voyez, c'est Marie qui médite la parole de Dieu. C'est pour ça, c'est le temps de la lecture divina. C'est Marie qui nous apprend la lecture divina. Il faut lire l'écriture avec Marie. Alors, dans votre lecture divina, vous savez bien, il faut un petit peu avoir deux registres dans la lecture divina, je crois. Il faut avoir deux registres. C'est-à-dire, il y a un registre de longue haleine. Il faut lire toute l'écriture. Depuis le début jusqu'à la fin. Il faut avoir fait ça au moins une fois dans sa vie. Avec quelques fiches qui dominent les grands leitmotifs de toute l'écriture. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez plus. Alors faites-le. C'est bon, c'est excellent. Puis alors, il faut avoir un autre rythme qui peut dépendre des temps liturgiques. Le temps liturgique de l'Avent n'est pas celui du carême. Alors il faut découvrir ce qui nous aide à découvrir le temps de l'Avent. Il faut interroger les leçons du bréviaire et voir les leçons du bréviaire. Parce que c'est bon de se familiariser de cette manière-là avec le temps liturgique. Il faut entrer pendant ce temps de l'Avent dans le grand prophète Isaïe. Isaïe, c'est l'Avent et c'est le carême. Il faut aussi regarder toutes les naissances qui nous sont données dans l'Écriture. Toutes les naissances. Le grand mystère des naissances, les attentes. Anne, la mère du prophète Samuel, c'est une attente, l'attente de Zacharie et d'Élisabeth. Toute l'Église, c'est très grand cela, toute l'Église est une attente, toute la vie de l'Église est une grande attente. Et cette attente ne peut être vécue avec suffisamment de force que dans la mesure où justement on garde la parole de Dieu. On est la bonne terre qui garde la parole de Dieu. Donc dans la Lectio Divina, il faut lire la parole de Dieu. Lentement. Pas une lecture à toute vitesse, hein, ça ne sert à rien. Il faut la lire lentement. Je ne vous demande pas de la lire tout dans votre cellule, parce que ce sera un exercice de lecture. C'est pas ça la lecture divina. Mais il faut la lire lentement. Pour essayer de comprendre ce que Dieu veut nous transmettre par là. Ce que Dieu veut nous enseigner par là. Il faut demander à Marie de nous apprendre à lire l'écriture. Il y a de nombreuses manières de lire l'écriture, nous le savons bien. Il y a l'exégèse moderne, je la mets au sous-sol. L'exégèse moderne, pas l'exégèse du père Dreyfus, pas l'exégèse d'autres qui viennent ici, pas l'exégèse du père Feuillet, mais l'exégèse qui ne s'occupe que d'une seule chose, de la structure du texte, de la composition du texte. Donc c'est quelque chose d'extérieur, c'est l'écorce. Il y a une lecture de l'écriture où on se demande qu'est-ce que l'Esprit Saint peut nous enseigner par là. Comment l'Esprit Saint nous éclaire sur Dieu, sur le mystère de l'homme. Essayez de découvrir progressivement Dieu nous éclaire sur lui-même. Puisque c'est Dieu qui nous parle. Et nous parle en se servant d'un langage symbolique, d'un symbolisme divin, pour essayer de nous faire entrer dans ce qu'il est. Alors essayez de vous faire votre petite théologie biblique. Et c'est bon, je crois que chacun d'entre nous devons nous faire une petite théologie biblique. Ça nous servira beaucoup après, si on doit prêcher. Ça nous servira beaucoup pour nous, du reste. Pour notre méditation et notre contemplation. C'est ça que j'appelle découvrir les grands leitmotifs de l'Écriture, les lignes de crête, par rapport au mystère de Dieu, par rapport au mystère de l'homme. Et chacun d'entre nous avons un petit peu notre manière de la Lectio Divina. Mais il faut creuser la parole de Dieu. Il faut la creuser attentivement, être plus attentif quand on parle, quand on lit la parole de Dieu, que dans n'importe quelle autre lecture. Si vous aimez de creuser Aristote, aimez de creuser encore infiniment plus la parole de Dieu, parce qu'elle est encore beaucoup plus intelligente. Si vous aimez de lire Platon, aimez infiniment plus de lire la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut l'aimer. Ça met du temps. Certains l'aiment tout de suite, c'est très très bien. Mais ordinairement, ça met du temps. Surtout quand on a fait un peu de philosophie. Je ne dis pas que la philosophie écarte. Elle ne devrait pas écarter. Mais ça arrive. Parce que la philosophie parle plus immédiatement à notre sensibilité. Et s'il faut aimer la parole de Dieu, il faut l'aimer comme l'Esprit Saint lui-même veut que nous l'aimions. Et que nous demandions à l'Esprit Saint de nous apprendre avec Marie. Il veut nous apprendre avec Marie. D'aller jusqu'au bout de la signification de la parole de Dieu. Il faut entrer dans ce mystère et être éclairé par ce mystère. Alors encore une fois, on peut, et je crois que c'est la meilleure façon de faire la Lectio Divina, c'est que cette Lectio Divina nous conduise au silence et à l'amour et à la raison. On peut faire la Lectio Divina d'une façon plus active pour faire un travail de théologie biblique. C'est pas mauvais. Les deux peuvent du reste très bien se comprendre. Les deux, d'une certaine manière, doivent se compléter. Parce qu'il y a les deux dans la Lectio Divina. La Lectio Divina doit nourrir notre foi. Et on doit l'aimer. À ce point de vue-là, c'est plus facile la Lectio Divina que l'oraison. Normalement, c'est plus facile. La Lectio Divina, ça nous enrichit. Parce qu'on se met à l'école directement de l'Esprit Saint. Et c'est très enrichissant. Ça passe vite. Vous regardez moins souvent votre montre quand vous faites la Lectio Divina que quand vous êtes dans l'oraison. L'oraison, c'est toujours appauvrissant. Tout. Bien, sauf évidemment quand le Saint-Esprit nous emmène très haut dans le quatrième degré d'oraison. Alors à ce moment-là, c'est merveilleux. Mais quand l'Esprit Saint nous laisse un peu dans la sécheresse, dans l'aridité, c'est pas étonnant que ce soit dur. C'est dur. Mais il faut y tenir bon. Et tout le temps. Ça, c'est essentiel. Maintenir les deux demi-heures d'oraison. Et pendant le temps de l'Avent, avec Marie, vive très profondément de ce silence de son cœur, à ce silence d'amour qui doit nous imprégner. C'est vraiment un silence qui doit nous imprégner, ce silence de Marie pendant l'Avent. Alors voyez là, pour aider, faites un effort, puisqu'il s'agit de donner un coup de fouet, faites un effort pour garder le silence. C'est vrai, je rencontre souvent des frères parlant entre eux, je ne dis rien, parce que... des observations tout le temps. Mais je me dis, est-ce que c'est tout à fait normal qu'ils parlent entre eux? Vous voyez, pendant, après en cours, entre les deux cours, ça arrive très souvent. Là. Entre les deux cours, le matin, je comprends très bien, ou l'après-midi. Je comprends très bien qu'on ait des tentations de parler. Mais je crois qu'il faut à tout prix maintenir ce silence. Et puis dans les couloirs, si on a à dire un mot qu'on entre dans tel ou tel parloir, s'ils sont libres pour dire quelque chose et ne pas parler à droite ou à gauche, déjà quand on entre, on a fait déjà un acte qui fait que on ne fait pas ça pour dire n'importe quoi. Savoir que on veut parler parce qu'on a quelque chose à dire, quelque chose d'important, d'urgent qui ne peut pas attendre. Communiquer une idée géniale, c'est pas suffisant pour rompre le silence. Pas suffisant. Pour rompre le silence, il faut des choses nécessaires dans l'ordre pratique. Parce que ça ne peut pas attendre. Là où je crois qu'il y a un progrès à faire. Et pendant le temps de l'avance, c'est très important de faire ce progrès. Parce qu'il faut arriver petit à petit à ce que le silence intérieur nous pénètre et que nous soyons vraiment notre propre cellule intérieure. Et alors il y a quelque chose qui se fait comme ça, progressivement, quelque chose de grand qui se fait. Parce que si c'est quelque chose ne se fait pas, on n'ira pas très loin, vous savez. Les hommes d'aujourd'hui cherchent un silence profond. Non pas le vide, mais un silence profond. Un silence d'amour, c'est ça qu'ils cherchent. Et ils le sentent tout de suite. Si on est un homme silencieux, une femme silencieuse, au contraire, on n'a qu'un seul désir, c'est de bavarder. Et on veut bavarder parce qu'on n'aime pas, parce que si on aimait, si on était habité par l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint était là constamment en nous, alors à ce moment-là, on n'aurait pas du tout envie de parler. On parlerait tout le temps par miséricorde, et quand on parle par miséricorde, ça fait un effort divin. Dès que ça commence à ne plus être nécessaire, on fait comprendre que ce n'est pas la peine de continuer. Parce que les bavardages sont toujours en dehors de l'Esprit Saint. Il faut que nous apprenions au silence intérieur. Et pendant le temps de l'Avent, c'est un temps merveilleux pour ça. Il faut demander à la Vierge Marie. Parce qu'on n'arrivera pas par soi-même. Personne d'entre nous. Personne d'entre nous n'arrive par lui-même à entrer dans ce silence. Il faut recommencer tout le temps. Il ne faut pas dire je suis arrivé une année, maintenant ça y est. Non, 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 non. Vous dégringolez encore plus bas. Donc c'est tout le temps à reprendre. Parce que naturellement, notre nature humaine aime de parler, de jaser. Elle aime ça. Elle aime de communiquer aux autres ce qu'on porte en soi. Et on a de la peine vraiment à entrer dans ce silence. C'est quelque chose qui est surhumain. Oui, c'est quelque chose de surhumain. C'est un peu comme la vie religieuse. La vie religieuse n'est pas à notre taille. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas un signe de non-vie religieuse parce que on ne se sent pas entièrement à l'aise. Vous vous sentez entièrement à l'aise quand vous êtes retourné sur vous-même. Alors vous êtes à votre taille. Mais c'est pas très encourageant parce que c'est pas ça qui nous finalise. C'est pas ça qui nous permet de nous dépasser. La vie religieuse et la vie monastique qui implique ce grand silence et qui veut ce grand silence et qui veut ce grand silence s'intensifie. Et pendant le temps de l'Avent, il faut qu'il s'intensifie. Et bien Saint. Faut le supplier à l'Esprit Saint. Faut que soit le fruit de l'Esprit Saint en nous. Le fruit du cœur de Jésus en nous. Parce que naturellement, nous n'aimons pas le silence. Sauf si on est par nature taciturne. Mais c'est pas le silence d'être taciturne. C'est de broyer du noir. Et quand on broie du noir, c'est pas précisément le silence. Parce que ça fait beaucoup de bruit de broyer du noir. Il suffit de regarder la personne en question pour s'apercevoir que ça ne va pas du tout. Tandis qu'être en silence, c'est un silence joyeux d'amour qui doit nous saisir et nous prendre. Alors regardons simplement quelques-uns de ces aspects, si vous voulez, que nous continuerons du reste pendant le temps de l'Avent à entrer de plus en plus dans ce grand mystère de l'amour du cœur de Jésus au plus intime de nous-mêmes. Comment nous devons vivre ce mystère? Je relis. Ô flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse, lisez-le en pensant à Marie pendant tout le mystère de l'Avent. Et nous pouvons le lire en pensant à Marie pendant tout le mystère de la compassion. Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse, dans le centre le plus profond de mon âme, puisque vous ne me causez plus de chagrin, achevez votre œuvre, et si vous le voulez bien, déchirez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Chacun des versets, puisque vous ne me causez plus de chagrin. Notons le bien, avant que ce feu divin de l'amour ne s'introduise dans la substance de l'âme et ne s'unisse à elle par une purification complète et une pureté parfaite, cette flamme qui est l'Esprit Saint fait des blessures à l'âme. Il détruit et consume les imperfections de ses habitudes mauvaises. Telle est l'opération par laquelle le Saint-Esprit dispose l'âme à l'union qui l'attend et à la transformation en Dieu par l'amour. Car il faut bien le remarquer, ce feu d'amour qui s'unit à l'âme pour la glorifier est le même que celui qui l'a pénétrée pour la purifier. C'est ce qui se produit pour le feu matériel. Il pénètre le bois. Mais tout d'abord, il l'enveloppe et le blesse de sa flamme. Il le dessèche et lui enlève tous ses éléments difformes. Puis, il le prépare si bien par sa chaleur qu'il peut enfin entrer en lui et le transformer en feu. Cette transformation, les spirituels l'appellent la voie purgative. L'âme y endure beaucoup de souffrance. Elle y éprouve dans son esprit de profonds chagrins qui d'ordinaire ont leur répercussion dans les sens. Car la flamme de cette voie purgative lui est très pénible dans cette période de purification. La flamme ne lui apporte pas de clarté et la laisse dans l'obscurité. Si elle lui donne quelques lumières, c'est uniquement pour lui montrer et lui faire sentir ses misères et ses défauts. Elle ne lui cause pas de suavité, mais plutôt de la peine. Quand parfois elle lui suggère quelques sentiments d'amour, ce n'est qu'avec un mélange de tourments et de contraintes. Elle ne lui procure aucune satisfaction, mais de la sécheresse. Et si parfois elle lui apporte par miséricorde quelques jouissances pour l'encourager et la ranimer, elle le lui fait payer avant et après avec toute autre épreuve. Elle n'est pas non plus réconfortante.
et à la tourmenter par la connaissance elle-même. Ainsi donc, cette flamme ne lui procure aucune gloire, mais l'introduit dans ses misères et ses chagrins, dans la lumière spirituelle qu'elle lui donne de la connaissance d'elle-même. Dieu, comme dit Jérémie dans ses lamentations, envoie le feu dans ses os pour l'instruire. Ou comme dit David, il l'éprouve par le feu. Voilà pourquoi, durant tout ce temps, l'âme endure dans son entendement le supplice des ténèbres. Dans sa générosité, celui des sécheresses et des aridités. Dans sa mémoire, celui de la connaissance de ses propres misères. Dans la mesure où son œil spirituel les veut. Dans la mesure où son œil spirituel les voit. De plus, elle souffre dans sa substance même le délaissement et la plénitude extrême et la pénurie extrême. Qu'elle soit dans les sécheresses, les aridités, ou parfois dans la ferveur, elle ne goûte aucun soulagement. Elle n'a pas même une pensée pour se consoler et pour élever son cœur à Dieu. Cette flamme lui est si pénible qu'elle dit à Dieu comme Job dans une pareille épreuve, « Vous êtes devenu cruel envers moi. » Quand en effet, l'âme endure tous ces maux à la fois, il lui semble, en vérité, que Dieu est devenu cruel à son égard et irrité contre elle. Il est impossible de s'imaginer quelles sont les tortures de l'âme durant le temps de cette épreuve, qui parfois ressemble presque au tourment du purgatoire. Pour moi, je ne saurais en ce moment donner une idée de cette peine, ni exprimer quelle est son intensité, ou jusqu'à quel point elle se fait sentir, si ce n'est en rapportant ces paroles que Jérémie a prononcées à ce sujet. Je suis l'homme qui a vécu ma pauvreté sous la verge de son indignation. Il m'a menacé et m'a attiré dans les ténèbres et non à la lumière. Il a tourné et retourné souvent sa main contre moi. Il a fait vieillir ma peau et ma chair. Il a brisé mes os. Il m'a entouré d'une enceinte. Il m'a environné de fiels et d'épreuves. Il m'a placé dans les ténèbres avec ceux qui sont morts depuis longtemps. Il a mis un mur tout autour de moi pour m'empêcher de sortir. Il m'a chargé de lourdes chaînes. De plus, lorsque j'ai élevé la voix et que je l'ai prié, il a rejeté ma prière, il m'a fermé tous les chemins avec des pierres de taille, il a bouleversé mes voies et mes sentiers. Telles sont les paroles de Jérémie. Or, il en a dit encore beaucoup plus. Mais dès lors que Dieu emploie ses moyens pour guérir l'âme de ses innombrables infirmités, et lui rendre la santé, il est clair que l'âme doit souffrir, selon ses maladies, sous l'action d'une telle purification ou d'une telle cure. C'est très fort pour montrer ces grandes purifications. Et c'est l'Esprit Saint qui agit. Hein. Ce sont des grandes purifications qui peuvent durer. Ou alors, on perd comme le sens des choses divines, puisque Saint Jean de la Croix souligne qu'on est tenté de dire que Dieu est cruel. Tellement justement c'est rude et que ça nous semble inhumain, puisque c'est ça que ça veut dire. Alors c'est les grandes purifications de Dieu. Et ces purifications sont nécessaires pour qu'on puisse vivre pleinement ce que Dieu attend de nous. Le temps de l'Avent peut être un temps de purification. Alors il faut qu'il y ait la joie. Et il faut demander à Marie de maintenir en